Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. La justice nord-irlandaise examine à partir d'aujourd'hui et pour la première fois le cas d'un soldat britannique accusé de meurtre lors du célèbre Bloody Sunday de Londonderry en 1972. Cela ravive évidemment de mauvais souvenirs et provoque aussi des inquiétudes sur de possibles feux mal éteints. En quelques mois, une journaliste a été tuée lors d'une émeute, toujours à Londonderry, ou Derry, selon du point de vue duquel on se place. Une voiture a explosé sans faire de victime. Une bombe potentiellement meurtrière a été découverte juste à temps. La province est sans gouvernement depuis 2 ans et demi. Et le Brexit, avec la question de la frontière avec l'Irlande, inquiète. Va-t-on vers un retour de la violence en Irlande du Nord? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Fabrice Mourlon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris 3 et spécialiste de l'Irlande du Nord. Et Christophe Gillissen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'études irlandaises à l'Université de Caen-Normandie. L'Irlande du Nord vit en paix depuis l'accord du Vendredi Saint en 1998, après 30 ans de guerre ou de troubles. C'est un peu comme avec la guerre d'Algérie en France, hein, ces questions de vocabulaire. Ces accords ont-ils réglé tous les problèmes ou existe-t-il encore des braises sous la cendre, Fabrice Mourlon?
Alors, vous rappeliez le passage en justice du soldat F.
Et c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, pour ne pas l'identifier, soldat F.
Voilà. Et donc, en fait, vous avez tout à fait raison. Tout ce qui est lié au travail de mémoire, on va dire ça, hein, c'est le terme français. Donc, tout le réexamen des cas, des affaires qui n'ont pas été jugées par le passé, en fait, il n'y a pas de mécanisme vraiment qui existe en ce moment. Et la dernière consultation qui a été menée en Irlande du Nord a fait ressortir qu'il n'y avait pas de consensus sur les mécanismes à mettre en place. Donc, c'est vraiment un des problèmes qui
Allez-y.
Et donc le fait que le Bloody Sunday, donc il y a eu le rapport Saville en 2010, qui a été présenté par David Cameron à la Chambre des communes, et c'est vrai que les familles, elles, certaines familles voulaient aller plus loin et que certaines personnes passent devant la justice.
Christophe Gillissen, on va peut-être le rappeler, le Bloody Sunday, c'est une manifestation à Derry ou Londonderry, peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer ça, qui tourne mal et l'armée britannique tue 18 personnes. C'est en 1972, c'est ça qui s'est passé?
C'est le 30 janvier 1972 et effectivement c'est un événement très important parce que la région, l'Irlande du Nord, bascule à ce moment-là de manière un petit peu irrémédiable dans le conflit. Auparavant, on pouvait encore espérer calmer les choses, trouver une solution politique, mais cet événement a marqué très durablement la population catholique nationaliste, parce que cette manifestation pacifique, hein, qui visait à protester contre l'emprisonnement de suspects, a été prise, cette manifestation a été visée par un régiment de parachutistes qu'on a envoyé sur place pour le maintien de l'ordre. Donc il y avait une disproportion entre les moyens déployés et la situation, et ils ont ouvert le feu, ils ont tué sur le coup 13 personnes, dont plusieurs mineurs. Plusieurs de ces personnes ont été abattues dans le dos et d'autres sont morts par la suite de leurs blessures. Mais ça a été un choc, un véritable traumatisme, et ça a été d'autant plus difficile à accepter par la population catholique que très rapidement, un rapport officiel d'enquête a été publié dans les semaines qui ont suivi. Et dans ce rapport, il était dit que l'armée avait été exemplaire et que les morts étaient les suspects.
Alors, Fabrice Mourlon, vous le disiez, il n'y a pas de consensus qui s'est créé sur le travail de mémoire, comme vous le disiez. Est-ce que cela aussi, et peut-être surtout, cela rend la paix fragile aujourd'hui? Je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a encore des braises sous la cendre? Est-ce que la paix est fragile aujourd'hui en Irlande du Nord?
Alors, la paix est fragile parce qu'il n'y a pas d'institution, comme vous le disiez, depuis 2 ans et demi, quand même. C'est vrai qu'il y a eu des émeutes cet été, notamment, mais c'est aussi, c'est un peu à relativiser, c'est-à-dire que cet été il y a eu des émeutes liées aux commémorations donc de la victoire de Guillaume d'Orange qui est fêtée par les
manifestations orangistes annuelles.
Voilà. Et puis après vous avez les apprentis de Derry qui fêtent aussi le siège de Derry, donc ça c'est des commémorations commémoration qu'il y a tous les ans. Donc c'est vrai que l'été en Irlande du Nord est toujours un peu tendu. Mais les dissidents républicains, c'est-à-dire les groupes paramilitaires qui n'ont pas accepté de déposer les armes comme l'a fait l'IRA provisoire en 2005, sont des petits groupes qui restent actifs et qui vont évidemment essayer d'utiliser le Brexit et la déstabilisation que ça cause, cause en Irlande du Nord, pour essayer de mettre en avant leur cause d'une réunification avec le sud de l'Irlande.
Christophe Gillissen, vous diriez-vous que la paix est fragile aujourd'hui en Irlande du Nord ?
Il me semble qu'elle présente des fragilités. On pensait que avec les accords de paix, l'essentiel du problème a été réglé. On ne s'attendait pas du tout à ce que, par exemple, le Brexit arrive et chamboule tout cela, parce que les accords de paix prévoient ou reposent sur l'idée qu'il n'y a pas de frontière visible entre l'Irlande du Nord et le Sud. Hein, c'est-à-dire que pour les nationalistes, l'IRA, qui ont combattu pour la réunification de l'Irlande, ils n'ont pas obtenu. L'Irlande du Nord fait toujours partie du Royaume-Uni. En revanche, ils peuvent estimer que dans la vie quotidienne, l'Irlande a été réunifiée. On traverse la frontière qui n'est pas visible. Donc avec un Brexit dur, c'est cet aspect-là des accords de paix qui risque d'être remis en cause. Si demain il y a des postes de contrôle à la frontière, ça invaliderait les accords de paix, je pense, pour de nombreux nationalistes.
Depuis plusieurs mois, donc on en a parlé, des événements se succèdent dans la province. Des explosions qui n'ont pas fait de victimes dans un premier temps, des découvertes de voitures piégées qui auraient pu en faire, c'était près d'un commissariat de police, et puis il y a la mort par balle de la journaliste Lyra Mackey lors d'une émeute à Londonderry, ou Derry, selon qu'on est républicain ou unioniste. Il y a quand même un bruit de fond, quelque chose qui est en train de ressurgir, Fabrice Morlon, non ?
Oui, ça a toujours été, si vous voulez, il y a toujours eu encore des séquelles après même l'accord du Vendredi Saint, il y a une espèce de période un peu plus calme tout au début de l'accord après 98, mais sinon on peut dire, si on regarde un peu toute la durée, les 20 dernières années, il y a toujours eu quelques attentats qui ont été commis par les paramilitaires en général. Mais ce qu'il faut dire, c'est que là, ces groupes paramilitaires qui sont quand même petits, il y a on va dire une centaine de personnes. On ne sait pas, hein, puisque c'est des sociétés secrètes, mais il y a une centaine de membres, on pense, qui...
On ne prend pas officiellement sa carte, hein, ça c'est...
Voilà. Mais, si vous voulez, contrairement à la période du conflit, ces groupes n'ont pas le soutien de la population. Mmh. Et on l'a vu après la mort de Lyra Mackey, il y a eu quand même un grand émoi de la part de tous les... de la population et de tous les partis politiques pour condamner ce meurtre.
Cette mort de Lyra Mackey, qui a été tuée donc au cours d'une émeute, déjà ça veut dire que, Christophe Gillissen, il y a encore des émeutes.
Oui, 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 les difficultés, ce bruit de fond que vous évoquiez est indiscutable. Tant que les institutions nord-irlandaises fonctionnaient, ce bruit de fond n'était guère audible. Depuis que les institutions sont suspendues, il y a un vide, un silence politique, et du coup ce bruit de fond devient plus perceptible. Et il a tendance à s'accroître, effectivement, depuis plusieurs mois, depuis peut-être le référendum sur le Brexit. En tout cas, c'est l'un des constats du chef de la police nord-irlandaise qui s'inquiète de la suite. Il constate cette augmentation, cette fragilisation de la paix, et c'était un message très clair envoyé au gouvernement britannique.
Il y a des groupes armés, et notamment un dont on entend pas mal parler, Fabrice Mourlon, c'est la nouvelle IRA. C'est de ça que vous parliez quand vous parliez d'une centaine de personnes.
C'est tous les groupes. Il y a plusieurs groupes. Hein, il y a des scissions, donc les noms changent. Il y a la nouvelle IRA et l'IRA Continuity IRA. Mmh. Donc c'est les plus grands groupes. Mais après, il y a des scissions, etc., entre les groupes. Et c'est, oui, l'ensemble des dissidents. Ça fait environ une centaine de personnes.
C'est quoi ? C'est des vieux de la vieille qui veulent pas laisser tomber ? Ou est-ce que c'est des jeunes qui les rejoignent, qui sont peut-être plus radicalisés encore, Christophe Gillissen ?
Il y a les deux. Il y a les deux, c'est-à-dire que au moment des accords de paix en 1998, une minorité, une petite minorité de l'IRA de l'époque, donc, a refusé de signer, d'accepter ces accords de paix. Et il recrute notamment dans ces cités déshéritées, là où les émeutes avaient lieu lors du meurtre de la journaliste. C'est un quartier déshérité et les jeunes.
Quartier de Craigan, c'est ça?
Absolument, oui. Dans la banlieue de Derry ou Londonderry. Et donc pour ces jeunes qui n'ont quasiment aucune perspective professionnelle, l'attrait, le côté un petit peu prestigieux d'une organisation clandestine comme l'IRA nouvelle ou de la continuité, est assez attractive. Ça leur donne un sentiment d'importance, de contrôle sur leur destin.
Est-ce que ça existe encore en Irlande du Nord, dans les quartiers catholiques ou protestants, des milices qui assurent l'ordre et qui, pour ainsi dire, font leur loi? Est-ce que la police ferme les yeux? C'est géré en interne, si je peux dire ça comme ça, Fabrice Morlon?
Il y a encore certains quartiers, cet été, les émeutes qu'il y a eu dans le quartier de Belfast Nord, Ardoyne, c'est sûr que, bon, certains paramilitaires ont encore un peu d'influence sur les quartiers, hein. Mais moins qu'avant quand même.
Vous le disiez, Christophe Gillissen, le Brexit et la question de la frontière avec la République d'Irlande est de nature à tendre les relations entre les communautés et les partis politiques, parce que, en fait, les Nord-Irlandais ont découvert la paix depuis 20 ans, tout simplement, le fait de pouvoir circuler librement, et ça, personne n'en veut de ce retour de cette frontière. Alors, où est-ce qu'il y a des gens qui en veulent, finalement?
Voilà. Aussi étonnant que cela puisse sembler, il y a une minorité considérable d'habitants de l'Irlande du Nord qui sont d'accord avec le projet du Brexit. Parce que ce sont essentiellement des unionistes qui se sentent proches des Britanniques, des conservateurs en particulier. Hein. Il y a des affinités idéologiques. Les unionistes au Parlement britannique soutenaient le gouvernement de Theresa May et le gouvernement conservateur et adhèrent à ce projet tout en se rendant compte de l'incidence que cela aurait sur l'Irlande du Nord. C'est-à-dire que ils souhaitent le Brexit, mais ils ne veulent pas de frontières dures en Irlande. C'est un peu contradictoire.
Oui, on ne sait pas exactement, parce qu'apparemment, ces partis se rendent quand même bien compte que la population ne veut pas revoir de frontières, Fabrice Morlon.
Ben oui, c'est vrai.
C'est une difficulté politique pour ces organisations.
Oui. Alors, un mot sur la frontière. La frontière, quand elle a été instituée après, dans les années 20, c'était une frontière avec des postes de, comme une frontière normale. Et c'est qu'à partir du conflit qu'il y a eu des checkpoints. Donc, il y avait la frontière et les checkpoints. Et les checkpoints, c'était pour la sécurité. Ces checkpoints sont partis. Donc, une frontière, ce qu'on appelle une frontière dure, je ne sais pas vraiment comment ils vont pouvoir la remettre en place. Si vous voulez, peut-être mettre des... je ne sais pas ce que vous en pensez, Christophe, mais des postes de douane, mais ça, qui va financer tout ça, hein? Et ensuite, il y avait l'idée de mettre en place toute une technologie.
Oui, des frontières technologiques.
Voilà.
Hein, c'est ça. Avec analyse des camions qui passent.
Exactement. Mais ça, c'est pas faisable. Ça sera fait d'ici 5 ans si c'est mis en place.
Alors, il n'y a pas de gouvernement local en Irlande du Nord depuis 2 ans et demi. Pourquoi? Est-ce que les partis, les communautés se regardent en chien de faïence, Christophe Gillissen?
Et il y a plusieurs raisons. Au départ, selon les accords de paix, il faut que les unionistes et les nationalistes gouvernent ensemble. Donc ça a été accepté en 1998, validé par les dirigeants de part et d'autre. Et tant que les dirigeants historiques étaient là, je pense par exemple à Ian Paisley, hein, le grand chef unioniste, ou quelqu'un comme Martin McGuinness du côté des nationalistes, ils se sont investis pleinement, ils ont gouverné ensemble avec succès. Or, ils sont partis au fil du temps, certains sont décédés, d'autres ont pris leur retraite politique. Ceux qui leur ont succédé sont plus jeunes, n'ont peut-être pas la même mémoire du conflit, de l'importance de faire fonctionner ces institutions. Et au fil des ans, on a pu s'apercevoir que les tensions augmentaient, des divergences sur le statut de la langue gaélique, dont des problèmes finalement mineurs. Mais dans le contexte du Brexit, ces tensions ont été ravivées, hein, je pense, parce que En fait, ce qui se passe, c'est que le Brexit ramène au premier plan la question fondamentale du statut de l'Irlande du Nord. Après les accords de paix, il y avait une sorte de zone grise d'incertitude. On pouvait être unioniste, nationaliste, et le statut de la région était relégué au second plan. Depuis le Brexit, la question se pose dans toute son acuité. Est-ce que l'Irlande du Nord est dans le Royaume-Uni et donc en dehors du marché unique, ou est-ce qu'elle reste dans le marché unique avec des liens forts, étroits avec la République d'Irlande? Et donc ça clive fortement la population et la classe politique.
Fabrice Mourlon, est-ce qu'il y a aussi une question de génération, des plus jeunes qui seraient peut-être davantage tournés vers le sud, vers l'Irlande tout simplement?
Oui,
est-ce qu'il y a une évolution démographique?
Oui, alors déjà il y a une évolution dans la manière dont la population se définit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne se définissent plus selon les critères catholiques, nationalistes et unionistes, protestants. Il y a environ 15% de personnes.
Ça veut dire que c'est possible d'en sortir de ça?
Avec le temps.
Oui.
Avec le temps. Mais c'est vrai que comme disait Monsieur Gillissen, c'est que le Brexit ravive des tensions qui commençaient à s'estomper. Et c'est vrai que les leaders comme Martin McGuinness et Ian Paisley ont fait beaucoup pour un peu apaiser ces tensions. Et c'est vrai que les deux leaders maintenant, Michelle O'Neill, du côté du Sinn Féin, et Arlene Foster, ne s'entendent pas du tout du DUP, ne s'entendent pas du tout du tout. Là, on est vraiment dans une impasse.
Je reviens avec ma question sur l'évolution démographique en faveur des catholiques. Apparemment, Christophe Gillissen, en Irlande du Nord, il y a de plus en plus de catholiques qui prennent une part de plus en plus importante de la population. Quand j'étais étudiant, on disait c'était un tiers de catholiques, deux tiers de protestants. On est quasiment à 50-50 maintenant, aujourd'hui.
Absolument. L'évolution démographique est assez spectaculaire et ça pèse aussi sur les événements en Irlande du Nord. C'est-à-dire que pour les unionistes protestants qui s'étaient toujours considérés comme la majorité chez eux, qui avaient donc le droit au pouvoir, il y a cette crainte. Hein. Ils ne sont plus que 48%, les catholiques sont 45%. Enfin ça, en tout cas, ce sont les chiffres du recensement de 2011. Mais si on regarde les études plus récentes, il semblerait que les catholiques seront majoritaires dès 2021. Alors avant que ça se traduise dans les urnes, il faut que les jeunes grandissent et aient droit de voter. Mais ça pèse sur les débats politiques, certainement.
La semaine dernière, un sondage indiquait qu'en cas de Brexit, une majorité, certes très courte, hein, de Nord-Irlandais souhaiterait une unification avec la République d'Irlande. Alors ça vaut ce que ça vaut, évidemment, ce n'est qu'un sondage, mais c'est une tendance lourde. C'est comment vous l'expliquez, Fabrice Mourlon?
Alors j'ai regardé un peu les sondages et il y a eu deux sondages. Il y a deux type de sondage. Donc il y a ces sondages, je les ai vus aussi, qui donnent une petite majorité à la réunification.
Je précise qu'on est dans la marge d'erreur.
Oui, hein, oui. Mais en même temps, il y a eu deux sondages qui ont été faits par l'université de Queen's et un autre par une autre, je crois que c'est une autre université. Et en fait, dans la méthode Queen's University, par exemple, a été faire des entretiens en tête à tête avec les gens. Et en fait, en faisant ces entretiens, il en est ressorti qu'il y avait une majorité de gens qui voulaient rester au sein du Royaume-Uni. Donc vous voyez, ça dépend comment c'est fait. Donc c'est vrai que de toute façon, l'année dernière, enfin cette année plutôt, avant les vacances, il y a certains unionistes qui sont un peu plus modérés, qui pensent maintenant que peut-être l'avenir sera dans la réunification de l'Irlande. Donc les choses sont en train de changer en ce moment.
On est sur un point de bascule très rapidement, Christophe Gillissen. Est-ce qu'on est à un point de bascule historique?
Je pense, si la Commission européenne insiste tellement sur ce backstop, si Dublin insiste tellement, si Theresa May a signé le principe de ce backstop, c'est qu'il y a quand même le sens des responsabilités. L'avenir, notamment, mais pas seulement, de l'Irlande du Nord est en train de se jouer.
Merci beaucoup Christophe Gillissen, merci beaucoup à vous également Fabrice Mourlon, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur les principales plateformes ainsi que sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.